prédicateur, pasteur Alain Ouvra. Thème du message, tout est possible.
Avec moi, mais il y a ces paroles de ce cantique, de ce chant, qui est à la fois aussi dans sa mélodie l'hymne national d'Israël, et vous avez remarqué ces paroles du mal perfide, au garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Alors j'aimerais vous raconter cette histoire de cet homme qui peut-être pouvait emprunter ces paroles de ce chant du mal perfide au garde-moi. Alors dans le sujet que nous allons voir, eh bien justement il s'agit d'un mal perfide. Et il est difficile pour les humains que nous sommes de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, de pouvoir, devant certaines choses étranges qui peuvent survenir dans nos vies, eh bien, de pouvoir de connaître et de percer finalement certaines choses qui nous semblent et qui sont réellement mystérieuses. Mais comme ces paroles le disent, eh bien, Seigneur, sois le chef de ma foi. Précisément devant ce mal mystérieux, ce mal perfide, je te demande d'être mon guide et quand la nuit voile tout à mes yeux, eh bien, sois mon étoile, et tu me guides, et tu me diriges des cieux. Alors pour ce faire, nous allons lire ce texte dans l'évangile de Marc, chapitre 9. C'est un texte que nous connaissons, que vous avez certainement lu à plusieurs reprises. Et je pense qu'il y a certainement un bel encouragement à traverser nos nuits sombres, et ainsi, eh bien, laisser faire le Seigneur, le laisser nous diriger et surtout nous apporter, eh bien, la délivrance dont nous avons besoin. La lumière, parce que la lumière, c'est toujours la délivrance. Elle est toujours derrière cela, mais il y a une condition, elle est sine qua non, c'est véritablement notre foi. Alors, prenons ce texte, Marc 9, et nous allons lire à partir du verset 14, s'il vous plaît. Lorsqu'ils furent arrivé près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Voilà pour ce récit qui nous est rapporté aussi d'une manière peut-être plus concise à travers l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Je ferai quelques comparaisons entre ces trois rapports dans ces trois livres différents, ces trois évangiles différents, parce qu'il y a des petites nuances qui peuvent être très intéressantes dans la compréhension de notre texte. Jésus redescend de la montagne, de la transfiguration, il a avec lui trois disciples, et puis il y en a neuf qui sont restés tout simplement dans le village, là, en bas, au pied de la montagne, dans le village, dans la ville probablement. Et nous voyons que quand Jésus va revenir, il va trouver un rassemblement auprès de ses disciples, une discussion. Il y a diverses personnes qui sont là, donc une grande foule. Et puis il y a des scribes, des hommes qui sont versés dans la connaissance de la loi de Moïse, des hommes qui sont censés de connaître beaucoup de choses, non seulement de l'histoire d'Israël, mais de la foi en Dieu. Et voilà que non seulement ils sont tous ensemble, mais il semblerait que ce que Jésus va comprendre, ce qu'il va s'apercevoir, c'est qu'il y a une discussion animée. Alors, naturellement, ce qui se coule de source, c'est que il va falloir poser la question, pourquoi ? Pourquoi, les disciples restants, ceux qui ne sont pas allés sur la montagne, sont pris à partie par la foule ? Mais dès que Jésus va arriver, il nous est simplement rappelé que dès que Jésus fait son apparition, tout le monde va s'arrêter de discuter et tout le monde va se diriger vers Jésus. Parce que tout le monde veut le saluer. C'était, a priori fort sympathique. Mais Jésus va poser la question, il va interroger, il va dire, mais de quoi discutez-vous avec eux ? C'est pas que Jésus soit curieux, parce que on pourrait peut-être penser que Jésus savait de quoi il s'agissait. Quand on le voit à l'œuvre, avec toute science, cette connaissance. Mais il veut quand même que la question soit posée, il la pose. Alors sur quoi discutez-vous avec tous ces gens qui sont autour d'eux ? Et puis voilà que la réponse va venir d'un homme qui va émerger dans la foule. Un homme de la foule va répondre, avec beaucoup de déférence d'ailleurs, « Maître, le sujet de la discussion, c'est autour de mon fils que j'ai amené auprès de toi, en peut-être sous-entendu, mais tu n'étais pas là. » Alors je l'ai amené auprès de toi, et je crois, constatation faite, qu'il est, selon le texte, qu'il est possédé d'un esprit muet. Alors ça c'est quand même étrange, est-ce que l'on pourrait voir dans la littérature moderne, ce genre de propos. Il est frappé de mutisme, il ne peut pas s'exprimer comme le commun des mortels, parce qu'il est muet. Mais son mutisme, le Père va l'avouer, il va le confesser, c'est ce qu'il croit lui-même, au fond de lui-même, qu'il est animé d'un esprit, un mauvais esprit, d'une possession d'un esprit donc muet, qui rend finalement cet enfant incapable de s'exprimer. Je pense que si aujourd'hui on ne recourrait pas certainement à ce vocabulaire, ou à cette explication de ce mal, une chose qui est certaine, c'est que je crois que le Père avait raison de parler ainsi. Parce que toutes les preuves vont nous être données dans l'intervention de Jésus par la suite. Peut-être que dans notre monde savant, aujourd'hui, on aurait peut-être besoin de revenir à la lecture de l'Évangile pour s'apercevoir que devant le mal perfide, devant certains mots que nous pourrions qualifier d'étranges, de mystérieux, où il y a là une main invisible de méchanceté et qui frappe les hommes pour les empêcher d'être et réellement des gens en santé, des gens normaux, tout simplement. Alors, peut-être qu'il faut recourir à la Bible pour avoir ces explications, parce que non seulement le diagnostic du mal est dit par un homme, finalement du peuple, mais il a constaté depuis des années, depuis l'enfance de son enfant, qu'il y a là quand même des comportements étranges. Et pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, alors il serait peut-être bon de vérifier par les faits entre ce qui est dit, ce qui est déclaré comme étant une vérité cachée, et puis la manière dont Jésus va traiter le problème. Si ça n'avait pas été ça, eh bien je pense que Jésus n'aurait pas procédé de cette manière. Mais la preuve en est donnée à la conclusion de notre récit. Donc j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit impur, et il m'a donné le descriptif. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. Figurez-vous. Alors peut-être y aurait-il un rapprochement à faire, parce que les faits sont là aussi, ce n'est pas seulement une ressemblance ou quelque chose qui pourrait nous y faire penser, mais je crois que c'est véritablement les symptômes d'une maladie qui est profondément invalidante et dangereuse, qui est l'épilepsie. Alors on lui donnera le mot que l'on veut, mais enfin on va rester sur le descriptif qui nous est donné et à l'observation de ce père, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Dans la version de Matthieu, il nous est dit ceci. « Mon fils qui est lunatique », voilà, c'est une petite nuance, mais c'est intéressant. En sachant que peut-être dans les peuples anciens, eh bien, on attribuait ce genre de phénomène, de dérèglement qui faisait perdre le contrôle ou la maîtrise de soi à un être, eh bien qu'il y avait une influence lunaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans la discussion ou dans le sujet, mais c'est ainsi que Matthieu présente. « Mon fils qui est lunatique souffre cruellement. » Donc, il y a derrière cette souffrance qui est dépeinte, eh bien, quelque chose qui nous interpelle à cause de la grande douleur et de la grande souffrance. Cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Voilà ce qu'il nous est dit. Dans la version de Luc, pour amplifier un peu notre réflexion, ce père va se tourner vers Jésus, peut-être d'une manière un peu différente de Marc, il dira « Mais Seigneur, porte les regards sur mon fils. » Et cela appelle à la compassion. Dans une détresse où nul homme n'a pu apporter de consolation ou de conclusion. Porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique, est-il dit. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, ce que nous n'avons pas dans les deux premières versions. L'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et il a de la peine à se retirer de lui après avoir tout brisé. Donc, c'est une vue panoramique eh bien, des évangiles sur le sujet qui nous est finalement eh bien, présenté de cette manière. Alors on va aller un peu plus loin maintenant. Il devient tout raide. Le Père va ajouter ceci, « Mais j'ai prié les disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Vous savez, quand on ne comprend pas une situation, et je crois que ce Père avait probablement fait cette démarche vers Jésus, parce que nous l'avons lu tout à l'heure, il nous est dit, mais je suis venu vers toi, pour toi, en quelque sorte, parce que je sais, toi, le Christ, que tu as certainement la possibilité de faire quelque chose. Mais comme tu n'étais pas là, eh bien, je me suis tourné vers tes disciples et ils n'ont rien pu faire pour mon fils. Ils n'ont rien pu faire. Et c'est là où Jésus va, dans les trois évangiles que nous avons cités tout à l'heure, les trois fois, à trois reprises, Jésus va stigmatiser un problème chez l'homme. Le problème de ce père, le problème de la foule, et le problème de tous ces gens qui discutent, comme les scribes et tous ces gens de la religion. On discute, en espérant qu'après avoir discuté, on trouvera une solution. Mais les discussions n'ont jamais été synonymes de libération ou de délivrance. On discute. Et vous savez que le monde, encore aujourd'hui, continue à discuter. Et discutera encore très longtemps. Pourtant, plonger nos regards dans l'Évangile va nous amener, si nous le voulons bien, à découvrir par la foi les réponses de Dieu. Donc, on va laisser ceux qui discutent discuter encore, la théologie et tout ce que vous voudrez, mais Jésus va stigmatiser finalement le problème des uns et des autres, y compris de ses disciples qui n'ont rien pu faire. Alors Jésus n'y va pas par quatre chemins, vous avez remarqué les expressions qu'il prend. Il dira, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je ? » On sent qu'il y a dans l'expression ou dans la réponse ou dans l'interpellation de Jésus à tous ceux qui sont autour de lui, comme quelque chose qui ressemblerait à de l'agacement. Jésus n'arrive pas à comprendre le cœur de l'homme qui soit si lent et si dur à croire, qu'il soit beaucoup plus version cœur de pierre que de cœur de chair. Et nous nous apercevons que Jésus va donner le mot ou l'adjectif, il dira incrédule, race incrédule, homme incrédule. Et toute la réponse, finalement, à ce que les hommes, là où les hommes se heurtent, là où ils butent, là où ils achoppent, là où ils ne peuvent comprendre, là où ils restent sceptiques, là où ils ne peuvent pas aller plus loin, si vous aimez mieux encore la multiplication des mots, eh bien c'est véritablement, ce mal porte un nom, c'est l'incrédulité. Race incrédule, leur dit Jésus. Alors, à partir de là, eh bien, il faut sortir de l'ornière. Il faut que cet homme, qui est venu vers Jésus pour plaider la cause de son fils unique, de son enfant qui souffre cruellement, il ne faut pas qu'il reste dans cette situation. Il faut qu'il parvienne à un moment donné à s'extraire de cette prison, de ce carcan, de ces chaînes de l'incrédulité, sinon Jésus ne pourra rien faire. Et ça, c'est vrai pour nous aujourd'hui. C'est vrai pour tous les hommes. Et ne soyez pas surpris, ne soyons pas surpris, s'il y a encore des prédicateurs à travers le monde qui prêchent l'Évangile. Parce que ce qui peut donner la foi, ce qui peut bannir l'incrédulité des cœurs, eh bien c'est le message de l'Évangile et le message de la parole de Dieu, où Jésus est au cœur, finalement, eh bien, de la prédication. L'apôtre Paul, je le cite de mémoire, il dira, mais en effet, les hommes peuvent être sauvés, s'ils le veulent, par la folie de la prédication. Et je suis tout à fait convaincu, en tant que chrétien, qu'il y aurait certainement beaucoup plus d'actions de Dieu dans nos pays, dans notre monde en général, s'il y avait un peu plus de foi. Et comme aujourd'hui, tout est relégué à des histoires, ou à des légendes, ou à des contes, alors, naturellement, l'homme n'a plus qu'un sens unique, c'est de mettre sa confiance dans l'homme et dans le pouvoir de l'homme. Et où est le pouvoir de Dieu dans tout ça? Et surtout devant des cas, comme nous parlons ce soir, le mal perfide, esprit muet, esprit méchant, esprit qui invalide une vie. Alors Jésus dira, mais amenez-le-moi. Alors tout le monde s'est empressé de présenter cet enfant. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, parce que la présence d'un malade animé d'un esprit tel qu'il nous est présenté et cette confrontation avec Jésus va déclencher aussitôt, nous dit le texte, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Vous avez là trois personnages. Vous avez l'enfant, vous avez Jésus et vous avez l'esprit. Je voudrais resituer la place de chacun. Jésus, la délivrance, le Fils de Dieu venu pour détruire les œuvres du diable. C'est sa place par excellence. Vous avez l'enfant également, amené par son père, mais l'enfant qui se trouve en présence de Jésus. Et vous avez également la place de l'esprit qui habite l'enfant. Alors, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Hein. Mais c'est pourtant le mot qui est employé, posséder. C'est-à-dire une occupation anormale d'un être humain par des forces, par un esprit naturellement invisible, et qui fait que toute la vie, le fonctionnement normal de la vie de cet enfant, son métabolisme, son psychisme, peut-être quelquefois, finalement, comme nous l'avons, eh bien, ses facultés, ses sens, de pouvoir vivre comme il se doit, ont été atteintes. Tout cela a été modifié, tout cela a été perturbé, en sorte que cet enfant est frappé d'une infirmité. À l'examen peut-être médical de nos jours, on aurait dit qu'il y avait ceci et cela. On aurait peut-être donné un mot, Mais est-ce que l'homme aujourd'hui aurait pu peut-être répondre avec l'art médical? Parce que s'il y a des succès et nous sommes là pour les saluer, l'homme est capable de faire de grandes choses de nos jours. Mais il y a des situations où l'homme reste véritablement impuissant. Alors, je ne vais pas mettre en confrontation cette situation que nous avons devant nous, sur laquelle nous discutons, avec le pouvoir de la médecine, pas du tout. Mais toujours est-il que ce qui est montré, c'est qu'il nous est simplement dit qu'aussitôt, donc, l'enfant s'est trouvé en présence de Jésus, cette présence salvatrice, cette puissance de libération qui est en Jésus, l'esprit l'agita avec violence. L'enfant a été pris de convulsions. Il a été pris d'un mouvement de désordonné. Il a perdu le contrôle. Il a perdu la maîtrise de lui-même d'une manière spontanée. Aux yeux de tous ceux qui étaient là, on aurait pu dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'aurait pas compris. Mais derrière, le voile est levé, le voile de l'invisible est levé, et l'on comprend par la lecture de l'Évangile, c'est cette rencontre entre Jésus et l'Esprit, dont l'enfant est l'enjeu, qui va déclencher ce qui suit. Il l'agite avec violence, il tombe et se roule par terre en écumant. Vous avez remarqué avec moi l'enchaînement et la manifestation, les caractéristiques du mal. C'est, à vrai dire, et j'en reparle, les symptômes de l'épilepsie. Aujourd'hui, on aurait fait venir le SAMU, on l'aurait hospitalisé, on lui aurait donné toutes sortes de médicaments, etc., etc. Mais toujours est-il que peut-être on l'aurait enfermé dans une camisole pour apaiser cet enfant. Mais la solution n'est peut-être pas définitive. Là, ça va être définitif avec Jésus. Donc, et ce que nous constatons, c'est le pouvoir de Dieu qui se confronte avec un ennemi, en quelque sorte. Jésus va questionner le Père. Il va lui dire, mais combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et le Père va avouer depuis son enfance. Alors, on ne va pas aller chercher les origines. On ne va pas aller savoir pourquoi cet enfant est-il, eh bien, là, perturbé à ce point. Et perturbé, c'est un euphémisme, parce qu'il dira depuis son enfance, à tel point que, souvent, le Père reprend toujours et reste toujours dans son raisonnement, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Il y a là une main meurtrière. Il y a là une puissance morbide. Il y a là des forces qui s'agitent. Pourquoi cet enfant est-il malade? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on en voit les effets. Et à tel point que c'est quand même extrêmement grave, parce que par-delà cette agitation, cette souffrance cruelle, à travers tout ce qu'il peut y avoir en se roulant par terre avec l'écume à la bouche, eh bien, le but, c'est de le jeter dans le feu, de l'amener à perdre le contrôle lui-même, à se précipiter dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. Vous savez, par-delà ce que nous avons pu dire jusqu'à maintenant, quelquefois, on pourrait y reconnaître les esprits qui poussent les hommes à mettre un terme à leur vie, et ce geste s'appelle le suicide. Où là, l'homme perd complètement la raison, et pour en finir avec la souffrance, pour en finir avec une situation qu'ils ne peuvent plus gérer, impossible, insurmontable, alors à ce moment-là, eh bien, ils vont vers l'eau ou vers le feu, quels que soient les moyens, ça c'est une image que je prends, mais pour périr, pour mourir. Je voudrais quand même dire aussi en opposition, c'est que Jésus est venu sauver les hommes. Il est venu pour les faire vivre, et pas les détruire. Et ça, il faut absolument que ça soit retiré de notre tête. On a souvent conçu Dieu, on a souvent pensé Dieu de cette manière, que Dieu était un Dieu qui faisait mourir les hommes. Alors que c'est complètement faux, et ça relève du mensonge le plus éhonté, c'est que Jésus est venu pour faire vivre les hommes, pas les faire mourir. On aura la preuve ici quelques instants. Le feu, l'eau, pour le faire périr. À ce moment-là, lorsque ce père va terminer un petit peu le diagnostic qu'il a constaté, l'observation qu'il a constatée dans la maladie, dans l'infirmité de son fils, il va ajouter cette parole qui va être le déclencheur d'une espérance, un espoir, une lueur, comme on a parlé il y a un instant, quand la nuit voile tout à mes yeux, vous comprenez? Là, le père, il est dans cette phase Et il dira, mais il le dira spontanément, parce qu'il a confiance en Jésus. Il dira, mais, malgré cela, malgré ce risque de perdre mon enfant, à travers, ce genre de main infernale qui le pousse à sa destruction, il dira, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Ça, c'est la prière. Il y a une restriction, il y a le mais. Parce que Jésus avait raison de dire, race incrédule, homme lent à croire, mais si tu peux quelque chose. Vous savez, il y a encore deux ou trois jours, nous parlions de cette délivrance du lépreux qui était venu vers Jésus, qui s'était approché de Jésus pour crier sa misère et sa peine. Et là, c'était l'inverse. Le lépreux avait dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et là, nous voyons que c'est l'inverse qui se passe. C'est que cet homme croit au vouloir de Jésus, mais il a du mal à se saisir de son pouvoir. Or, la foi, elle prend racine, elle se fonde sur le vouloir de Dieu et sur le pouvoir de Dieu de nous guérir, de nous délivrer, de nous faire vivre. C'est ça la foi. C'est important. Et il l'explique, enfin il le dit tout simplement, si tu peux quelque chose, mais viens à notre secours et aie compassion de nous. Un homme qui est désespéré, parce que devant certaines maladies, devant certains maux, devant certaines situations, qu'elles soient physiques, morales, qu'elles soient d'ordre, je ne sais pas moi, dans la famille, ou tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans cette vie, eh bien il y a des choses, quelquefois on se dit, mais il y a des liens, c'est vicieux cette histoire. On n'arrive pas à en saisir les tenants et les aboutissants, et des gens tournent en rond, dans toutes sortes de spéculations, dans toutes sortes d'errances. Ils vagabondent de ceci et cela, de tout ce qui peut leur passer par la tête, prêts à recourir peut-être quelquefois pour compliquer la situation et bien d'aller voir et d'aller chercher la solution à ce problème de mauvais esprit vers l'occultisme et la magie, ce qui n'arrange rien et qu'au contraire, ce qui va précipiter les choses. Mais il appelle du secours et il sait que Jésus peut être son secours, mais il appelle aussi sa compassion. Et la prière qui est faite de ce cri, comme cet homme, eh bien nous voyons que c'est véritablement l'appel de prière. Parce que nous crions à Dieu notre détresse et notre angoisse, notre impossibilité de nous en sortir, mais nous appuyons tout cela, tout simplement, eh bien, sur la foi. Et compassion sur la foi et sur l'amour, pardon, sur l'amour de Dieu. Et voilà que Jésus va lui répondre aussitôt, mais si tu peux, Jésus est... Et là, à retourner cette question, il est interrogatif, il se dit, mais est-ce que moi je ne pourrais pas? Quand on sait que Jésus terminera son évangile, celui de Matthieu, par cette parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors s'il peut guérir sur la terre, c'est qu'il a tout pouvoir dans le ciel. Et les pouvoirs du ciel, il veut les faire descendre sur la terre et dans nos vies malheureuses. Si tu peux, et avec cette phrase qui reste véritablement le mot-clé, la phrase-clé de notre méditation ce soir, mais tout est possible à celui qui croit. Le problème n'est pas chez Dieu, le problème n'est pas chez Jésus, le problème est chez les hommes. Il était chez ce Père, qui était actuellement, dans le moment où nous sommes en train de prendre en considération la chose, il était en quelque sorte, il était partagé dans son cœur. Or, la foi ne s'accommode pas avec le partage. Il faut prendre la résolution d'aller dans un sens ou dans un autre. Et il va lui dire, mais tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est véritablement le mot des évangéliques. Tout est possible à celui qui croit. Alors, peut-être la prière spontanée que nous pouvons faire monter dans notre cœur, mais Seigneur, donne-moi de croire. Rends possible, eh bien, rends mon cœur, donne-lui la capacité de croire, parce qu'à ce moment-là, eh bien, tout deviendra possible pour moi, dans mon problème, dans ma situation. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois !» Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il a compris. Comme s'il y avait une lumière qui avait surgi dans son esprit, et il a bien compris ce que Jésus va lui dire. Et il va dire en premier lieu, « Mais je crois !» Il ne va pas dire, « Mais c'est difficile de croire !» Il ne va pas dire, « Mais ça m'est impossible de le croire !» Comment veux-tu que je croie quand je vois la situation ? Et c'est peut-être justement le grand défi que nous avons à relever, si nous sommes en train de, et que nous ne voulons pas sortir de ce que nous savons. Depuis l'enfance de cet enfant, le père avait toujours vu ses crises, il avait été certainement effrayé plus d'une fois, et au dernier moment, eh bien, son fils n'avait pas succombé à toutes ces cruautés. Alors, il était tout imprégné de tous ces phénomènes, même encore, là, quand Jésus s'est approché qu'il y ait une crise, il aurait pu être encore troublé tout à nouveau en disant « Mais comment veux-tu que je croie, puisque je vois ?» Je vois ce qui se passe, alors tu me demandes de croire à des choses impossibles, puisque la réalité, c'est le contraire. Regarde, il vient de faire encore une crise, il est en train de faire une crise. Qu'est-ce que tu veux que je croie dans tout cela? Il va falloir que nous changions à ce moment-là eh bien, notre manière de penser. Et notre manière de penser se résume, Seigneur, donne-moi de fermer les yeux sur le négatif et de les ouvrir sur ce qui est positif. Et d'ouvrir mes yeux sur la puissance de la foi, qui se dégage de toi et de tes paroles. Et ça, c'est la route qui va amener la délivrance. Je crois, mais cet homme sent qu'il est très faible. Et il dira tout simplement à Jésus, « Mais viens au secours de mon incrédulité, comme un homme qui marche sur l'eau et qui coule, comme Pierre qui croit quand Jésus lui dit, « Mais viens, sors de la barque et viens devant moi, tu marches sur la mer. » Et Pierre est sorti. Il a marché un temps sur la mer, mais dès qu'il a écouté le vent, il a vu finalement les vagues qui étaient tout autour de lui, alors à ce moment-là, il a sombré, il a commencé à couler. Heureusement, Jésus lui a tendu la main pour le retirer. Mais viens au secours de mon incrédulité. Et c'est peut-être le problème lorsque nous sommes confrontés avec des situations difficiles dans notre vie, à un moment ou un autre, nous y passons, si nous ne sommes pas déjà passés. Et nous pouvons marcher un temps avec le Seigneur, nous pouvons faire quelques pas sur le lac, sur l'eau. Et à un moment donné, nous nous laissons impressionner par tout ce qui est autour de nous. Eh bien, justement, il faut que notre foi eh bien, surmonte tout cela. C'est l'histoire de Jaïrus, c'est l'histoire de bien d'autres. C'est l'histoire de ce père qui demande à Jésus de venir pour qu'il impose les mains à son fils. Et Jésus ne va pas lui imposer les mains. Il va lui dire, tu retournes chez toi maintenant. Et tu verras, quand tu arriveras, ton fils sera guéri. C'est la marche par la foi. Et pas nous laisser impressionner par tout ce qui bouge. Et ça, ça s'appelle ce duel, cette confrontation, c'est une lutte, c'est une guerre. C'est l'incrédulité. Et elle est dans le cœur de chacun. Nous sommes enclins et nous voulons croire. Je crois, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est mon poison, c'est véritablement, eh bien, ce qui m'intoxique, ce qui me rend malade. Je suis prêt à croire, mais il y a toujours quelque chose dans ma tête, dans mes pensées, dans mon cœur, qui me ramène en arrière. Et ça, si nous prions comme ça, eh bien, le Seigneur va nous délivrer de l'incrédulité, parce qu'il veut que nous croyons. Et quelquefois, eh bien, nous ne savons pas toujours prier, et ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières, demandons-lui qu'il nous délivre de l'incrédulité. Alors à ce moment-là, eh bien, la foi trouvera son chemin, et elle fera son œuvre. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. » Il y a là, finalement, eh bien, toute cette œuvre de délivrance qui va se manifester. Jésus va parler. Il ne va pas parler à l'enfant. Il va parler à l'esprit qui est dans l'enfant, qui habite cet enfant, qui possède cet enfant. Et il va s'adresser donc à cet esprit. Et avec la fermeté des mots, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. C'est tout simplement une parole de foi. Une parole d'autorité, une parole de puissance. Donc Jésus, que Jésus va utiliser dans la circonstance. Et à ce moment-là, il va se passer le phénomène qui était décrit déjà. Le phénomène qui nous est présenté, c'est que cet esprit qui était dans cet enfant sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Vous savez que le diable ne lâche pas ses prises comme ça. Et c'est là où il nous faut encore un redoublement de foi. Parce que nous l'avons vu quelquefois à l'imposition des mains, lorsque nous avons prié pour des malades et que les malades ont été délivrés, au moment où nous prions pour les malades, il y a une recrudescence du mal, ce qui fait croire que finalement, eh bien, ce que nous avons fait, ça ne sert à rien. C'est complètement... C'est vain. Mais si nous nous maintenons dans la foi, dans la prière, et que même s'il y a tout à nouveau une agression et violente et forte, c'est de dire, Seigneur, je t'ai prié, nous t'avons prié, je m'en remets à ce que je t'ai demandé, je ne regarde qu'à toi et je ne regarde pas à mes symptômes qui sont en train de s'amplifier pour m'essayer de me faire couler tout à nouveau et me faire perdre le bénéfice de ce que tu veux faire pour moi. Combien de témoignages nous avons entendus, des gens qui sont venus à l'imposition des mains et qui sont repartis, ils étaient encore plus malades qu'avant. Mais ils ont eu la bonne réaction parce que à un moment ou à un autre, le lendemain matin, c'est arrivé, nous téléphonant en disant « Vous avez prié pour moi hier. Il s'est passé quelque chose. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais deux fois plus malade qu'en venant. Mais je me suis dit, j'ai prié, nous avons prié. Seigneur, tu as entendu ma prière. Et je vais résister. Je veux me maintenir dans la foi. » Et aussitôt, parce qu'il y avait cette prise de position, c'était tout simplement un défi. C'était une contradiction. C'était justement pour intimider et casser, eh bien, les dents de la foi. Et ces gens nous ont dit, mais effectivement, parce que j'ai tenu bon dans la foi, j'ai eu la bonne réaction au lieu de regarder ce qui m'arrivait, mes symptômes et tous mes ressentis, eh bien, j'ai continué à prier, j'ai dit, mais Seigneur, je te remercie parce que je suis guéri. Et à ce moment-là, les gens étaient guéris. Et nous avons eu des appels téléphoniques en nous disant, mais vous savez, c'est un combat terrible. Je suis venu, vous avez prié pour moi, ou nous avons prié ensemble. Et puis c'était terrible après. Un déclenchement comme une guerre, peut-être que comme je n'ai jamais vécu. Mais j'ai tenu dans la foi. J'ai continué non pas à prier seulement, mais j'ai béni le Seigneur pour la délivrance qu'il allait me donner. Et à un moment donné, eh bien, voilà, les choses se sont faites. Tout simplement, la personne a été délivrée. Il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. Imaginez-vous, un tableau, hein, c'était terrible pour le père. Hein. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Voilà, la moquerie. Voilà, quand on reste dans l'incrédulité, on ne verra que la mort, on ne verra que le mal, on ne verra que l'impuissance. Mais lorsque nous prenons position, avec les yeux de la foi, alors on ne se mettra pas du côté de ceux qui raillent, de ceux qui se moquent, de ceux qui haussent les épaules, de ceux qui disent « mais ça ne sert à rien la foi », puisque les gens disaient « mais regardez les morts ». Mais Jésus ayant pris l'enfant par la main, il le fit lever et il se tint debout. Quelle preuve! Quelle preuve du pouvoir que nous avons dans la personne de Jésus, dans sa puissance, dans son autorité, dans sa capacité, eh bien, à délivrer. Mais vous remarquerez avec moi, à travers le cheminement de ce petit message que nous avons passé en revue ce soir, une chose qui est certaine, c'est le grand conflit entre la foi et l'incrédulité. Et ça, je pense que vous me comprenez tout à fait. Le doute, quand il vient dans nos cœurs, nous partons quelquefois avec des assurances et des certitudes. Nous sommes réjouis. Notre cœur est rempli d'une certaine joie, une espérance en disant « Mais je crois que Seigneur, tu es capable de faire comme ça. Je crois que tu veux le faire. Je crois que tu le peux aussi. » Mais à un moment donné, il y a un déclenchement, un combat. Il y a quelque chose qui s'affronte, c'est un choc frontal. Et là, nous ne savons plus où nous en sommes rendus. Ça, c'est tout le travail. Finalement, de notre ennemi qui essaie de nous voler et de nous ravir ce que Dieu veut nous donner, avant même qu'il nous l'ait donné. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et on ne cède pas, on ne capitule pas, on ne baisse pas les bras, mais on reste dans une position de foi et d'assurance et de pouvoir dire, mais Seigneur, moi je crois que tu veux et que tu peux et que tu me conduiras jusqu'à la délivrance, jusqu'à le secours dont je t'ai demandé, la compassion dont je t'ai sollicité, eh bien, tu vas me la donner. Et regardez, il nous est dit que Jésus l'a pris par la main. Moi, je crois que Jésus voudrait encore nous prendre par la main. Oui. Et vous savez, avant de nous guérir peut-être de nos sourdités, ou de notre mutisme, ou de notre aveuglement, de notre cécité, de tout ce que vous voulez, moi, je crois que le Seigneur veut nous guérir à l'intérieur, vous comprenez ? Parce que si l'intérieur n'est pas guéri, l'extérieur ne le sera jamais. Et la première des choses dont nous avons besoin d'être guéris, c'est un mal sournois, perfide, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, qui s'appelle l'incrédulité. Vous y ajouterez le doute qui se trouve en mi-chemin entre l'incrédulité, je ne peux pas ou je ne veux pas croire, le doute, c'est l'hésitation, c'est le flou, puis il y a la foi de l'autre côté. Et le Seigneur, il nous prend par la main pour nous emmener du bon côté, pour nous tirer à lui, et nous dire, mais garde ta main dans la mienne, même si tu vois des précipices, même si tu vois des choses, si tu ressens des choses, si ton environnement devient de plus en plus négatif, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être délivré, que je ne peux pas faire quelque chose pour moi, ou que je ne veux pas. Je peux et je veux. Mais surtout, garde ta main dans la mienne et continue à croire, parce que tu dois t'en souvenir, tout est possible. À celui qui croit, il le fit lever et l'enfant se tint debout. Et là, je pense que probablement pour la première fois de sa vie, le père a entendu son enfant parler. Et l'enfant pouvait entendre parce qu'il était sourd et muet, parce qu'il était délivré complètement et totalement. Voilà l'œuvre de Dieu, à travers la personne de Jésus. Vous savez, si ces récits nous sont consignés, et si nous ouvrons encore ces pages de la Bible, c'est qu'il y a encore tellement d'hommes et de femmes qui sont privés de la véritable vie. Je ne veux pas dire, et je ne veux pas en faire une application générale, heureusement d'ailleurs, que tout le monde est possédé, que tout le monde est habité. Certainement pas. Ça, ce sont des cas d'exception. Nombreux peut-être, mais quand même. Mais une chose qui est certaine, c'est que notre âme, notre cœur, nos pensées, notre vie intérieure, qu'est-ce qu'elle est disputée? Vous le savez, que de conflits à l'intérieur de nous-mêmes, que de crises parfois, nous pouvons connaître, que d'hésitations, que de revirements de situations où nous ne savons plus où nous en sommes et nous ne savons plus ce que nous devons en penser. Eh bien, il y en a un qui nous prend par la main et qui nous conduit. Alors, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois, mais délivre-moi de mon incrédulité. Que Dieu nous bénisse ce soir. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole reste toujours une parole de puissance, une parole d'action, une parole, en effet, Seigneur, qui va à nos cœurs pour nous guérir. Là où certainement les hommes n'auraient aucune idée, Seigneur, d'aller, parce que nous savons, Père éternel, que s'il y a tant de perturbations, nous pourrions dire psychosomatiques, avec des conséquences sur notre être physique, eh bien, Seigneur, c'est parce que souvent il y a un mal à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce mal, Seigneur, qui nous pousse d'un côté ou d'un autre, qui nous donne d'être tellement hésitants, qui nous donne tellement, Seigneur, la nausée, Seigneur, le vertige, parce que nous ne prenons jamais position. Eh bien, Seigneur, c'est vraiment ce grand conflit qui a été dévoilé ce soir à travers ta parole, l'incrédulité ou la foi. Seigneur, dans le nom de Jésus, délivre-nous de notre incrédulité foncière, de notre incrédulité naturelle, de notre incrédulité terrestre et humaine. Seigneur, ça fait partie, en effet, eh bien, de l'espèce humaine. Et Seigneur, tu es venu vers nous pour nous apporter un message d'espoir et de nous dire tout simplement que si nous croyons, eh bien nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu. Seigneur, apprends-nous que tout est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur, apprends-nous à prendre en considération, Seigneur, que tu as en réserve des trésors de bénédiction et de grâce, de paix, Seigneur, de bonheur, de joie, Seigneur. Tu as tout cela pour nous, mais donne-nous véritablement de réaliser, de comprendre qu'en effet, Seigneur, eh bien, nous devons nous approcher de toi et de pouvoir te faire confiance. En d'autres termes, croire en ton pouvoir et en ton vouloir absolu et divin. Merci, Seigneur. Tu nous bénis ce soir. Tu bénis, Seigneur, en effet, ce que nous avons entendu. Tu le permets, Seigneur, que cette semence germe dans nos cœurs et que nous tournions le dos, Seigneur, à cette incrédulité qui nous rend malades. Seigneur, dans le nom de Jésus, plus de place pour l'ennemi. Toute la place est à Christ maintenant et nous voulons grandir dans la foi. Merci Jésus. Amen. Amen.